Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Bonjour Rosa et bienvenue sur le podcast.
Merci beaucoup Hélène, bonjour.
Alors Rosa, tu as fondé la librairie À Soi, donc c'est une librairie féministe située dans le 1er arrondissement de Lyon. Et d'ailleurs, on enregistre aujourd'hui dans la librairie où tu m'accueilles aujourd'hui, qui est un lieu du coup où on trouve plein de livres, mais pas que. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous présenter justement ce que c'est qu'une librairie À Soi et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce lieu en plus des livres ?
Alors, la librairie À Soi, c'est une librairie féministe et queer, ouverte depuis octobre 2021 à Lyon, au centre-ville, dans le quartier de l'Hôtel de Ville. La librairie a un rayon phare féminisme au pluriel. Pourquoi au pluriel ? Parce qu'il y a plusieurs sous-rayons dans ce rayon féminisme et aussi parce que il n'y a pas qu'une théorie féministe, mais il y en a plusieurs. Pour revenir au sous-rayon, ça va être l'histoire des féminismes, les questions de masculinité, de genre, de l'écoféminisme, du travail, de prison. Et en fait, il y a beaucoup de domaines qui sont traités dans cette perspective féministe. Et c'est pour montrer aussi que c'est un sujet qui se déploie aussi dans plusieurs sphères de notre vie, quoi.
Finalement, le féminisme, c'est un peu une façon de voir le monde. Et du coup, on peut peut-être regarder n'importe quelle thématique ou moment de vie.
Exactement.
À travers nos lunettes de féministes ou d'écoféministes.
Ouais, exactement. Oui. C'est exactement ça, ouais.
Et il m'avait semblé qu'on pouvait aussi trouver des livres, pas forcément féministes en tant que tels, mais peut-être plutôt simplement des livres qui sont écrits par des femmes, ou en tout cas pas par des hommes, et peut-être plutôt des romans, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus ?
Oui, bien sûr. Elle est la librairie féministe aussi parce que, en fait, nous, on met vraiment en lumière tous les livres écrits par des femmes et minorités de genre. Pour tout donner une idée, donc, on va dire 99% de livres qui ne sont pas écrits par des hommes, 6, et ça dans tous les rayons. Donc, comme j'avais dit, le rayon phare, c'est féminisme, c'est-à-dire quand on rentre dans les librairies, c'est vraiment la première table, c'est ce qu'on voit. Mais après, le reste des rayons, ce sont des rayons classiques d'une librairie généraliste. Donc, il y a évidemment la littérature, la bande dessinée, la jeunesse, les sciences humaines, la vie pratique, poésie, théâtre, etc. Et donc, encore une fois, avec une mise en avant très très forte des autoristes.
Et c'est ça qu'on aime ici.
C'est le retour que j'ai effectivement de ma clientèle.
Très agréable de les trouver tout de suite, les autrices, plutôt que de les chercher au fin fond des rayons des librairies classiques. Je me demandais, toi, ce qui t'a donné envie d'ouvrir une librairie féministe et avec justement cet angle très fort et cet engagement-là.
Ok. C'est une reconversion professionnelle pour moi. Moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans le tourisme d'affaires, mais j'étais toujours une grande lectrice. Le tourisme a été impacté beaucoup par la pandémie, donc j'ai dû quitter mon travail. Il y avait un plan social. C'était en 2021, oui. Et donc j'ai fait un bilan de compétences où il y avait l'une des options qui est ressortie, c'était le métier de libraire. Donc ça a tout de suite fait écho en moi, parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai toujours beaucoup lu. Et puis ma mère était bibliothécaire et bouquiniste quand elle était plus jeune. Et après, en fait, donc j'ai très vite décidé, je me suis renseignée sur le métier, qu'est-ce qu'il faut faire une formation, parce que je voulais pas refaire une longue formation. Je voulais vraiment rebondir très vite. Et tout de suite, j'ai pris la décision d'ouvrir ma propre librairie et pas devenir juste libraire. Parce que, malgré le manque d'expérience, parce que je voulais vraiment être indépendante. La question d'indépendance était très importante pour moi. Dans mon ancien travail, j'étais très autonome dans mon travail, même si je faisais partie d'un grand groupe, mais au niveau du management, c'était très, très à l'américaine, il n'y avait pas du micromanagement, enfin, j'étais pas surveillée et j'avais vraiment une autonomie. Et donc j'appréciais beaucoup une flexibilité d'horaire, etc. Voilà, donc, et quand j'ai décidé enfin d'ouvrir ma propre librairie, ben, en fait, c'était évident pour moi que ça soit une librairie féministe parce que si j'ouvre ma propre librairie, ça veut dire que ça va refléter ma personnalité et ce que je lis et mes lectures. Et en fait, à ce moment-là précis, je ne lisais pratiquement que ça. Et donc, petit flashback, en 2018, en fait, c'est là que j'ai eu, au début de 2018, j'ai eu mon éveil féministe, je suis tombée dans la marmite. Clairement, 6 mois après MeToo, enfin, vraiment, je dis que je suis une féministe post-MeToo parce qu'avant, c'était quelque chose qui m'intéressait. Enfin, je me posais même pas la question, en fait. Et je sais que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Voilà, pour moi, il y a rien de honteux de dire que je suis une féministe post-MeToo. Oui, ça fait pas 20 ans que je travaille sur le sujet, j'ai pas fait des études du genre, voilà. Mais n'empêche que, donc, une fois que je suis tombée dans la marmite, j'ai commencé à lire beaucoup d'essais d'abord. Et puis, en fait, quand on lit les essais féministes, il y a toujours des notes en bas de page ou des références ou de la bibliographie. Et moi, ça, ou la même autrice qui citait tout le temps, genre par exemple Audre Lorde, qui citait, ou bell hooks, qui sont citées quand même souvent dans les essais, ça donne envie en fait de les découvrir. Donc voilà, d'un livre à l'autre, j'ai commencé à construire ma culture féministe. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment donné, sans en faire exprès, de ne lire que des autrices. Donc quand j'ai compris ça, je dis ok, en fait, oui, c'est clairement parce que je m'intéresse au féminisme. Et surtout, en fait, j'ai vu aussi que ça commençait à changer un peu mon regard sur le monde, en même temps qu'il y a eu ma déconstruction quand même qui se faisait. Mais voilà, lire des écrits avec Sophie Male Gaze, je trouvais que ça donnait une autre perspective de vision sur le monde. Quand j'ai décidé d'ouvrir la librairie, ma propre librairie, évidemment que c'était pour moi, j'ai même pas réfléchi, quoi. C'était évident. Et puis je me suis renseignée sur s'il y a des librairies féministes en France, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à Lyon, parce que moi j'habite à la Croix, j'allais à Vivement Dimanche et c'est tout. Je connaissais très mal les autres librairies à Lyon. J'ai fait une petite étude de marché et puis il y avait de la place et je pense que j'étais convaincue qu'il y avait un besoin aussi.
Alors les personnes qui nous écoutent là peuvent pas le voir ou le savoir, à moins qu'elles connaissent déjà le lieu, mais on est quand même dans un très joli lieu. Est-ce que ça a été facile de trouver un lieu comme ça, si bien placé, alors que j'ai l'impression que c'est allé quand même assez vite entre Covid, arrêt du travail, reconversion, tu te lances, tu montres. Ouais. C'est génial de voir que tu t'es lancé comme si tu... J'imagine qu'il y a eu plein de doutes, plein d'hésitations, mais est-ce que c'est facile de trouver un lieu comme ça? Comment ça s'est fait? Oui. Beaucoup de chance ou...
Je pense que quand on veut ouvrir une librairie, et puis n'importe quel commerce tout court, la recherche d'un lieu, d'un local, c'est la partie la plus longue et qui peut justement faire retarder le projet. Et donc effectivement, moi c'était le cas. Alors du coup, ça, la partie la plus longue sur une année s'est faite quand même vite. Mais en fait, à la base, je voulais ouvrir la librairie à la Croix-Rousse parce que c'est là où j'habite et que c'est là que je connais la clientèle. Et finalement, donc mes recherches de local au début se sont concentrées sur la Croix-Rousse, sauf que la Croix-Rousse est très mal foutue. J'ai failli avoir un local en face de chez moi, que j'adorais ce local, il est vraiment très beau, mais je ne l'ai pas eu, et finalement tant mieux. J'ai su en fait à un moment qu'il y avait donc cette librairie Musique à l'âme, puisque j'ai repris la librairie Musique à l'âme, qui était à vendre. Donc elle est en bas, enfin sur le, à côté de l'hôtel de ville, à côté de la place des Taureaux, donc ça reste pas loin de chez moi. Oui, moi c'était vraiment très important que ça soit pas loin de chez moi.
Mais dans ton équilibre vie pro, ouais, perso, exact, oui. La mobilité, les trajets,
c'est ça, oui. Ça compte, j'ai deux enfants aussi, voilà, donc c'était pour exactement ces raisons-là. Et donc je suis venue au début juste pour voir la librairie, à quoi elle ressemblait, sans, enfin voir le local quoi. Et quand je suis rentrée, j'ai fait waouh, c'est exactement ce que je cherche, parce que j'avais quand même plein d'idées d'événements, d'animations, on en parlera peut-être plus tard, mais que je voulais mettre en place, et j'y tenais vraiment. Le local que je visitais, c'était, j'imaginais pas du tout comment je pouvais faire tout ça. Et là, ici, en fait, tout était possible. Tout était possible au-delà du fait qu'il est beau et grand. Et après, j'ai commencé mon opération séduction avec l'ancienne propriétaire du Musicala, Isabelle. J'ai repris la librairie, enfin, j'ai repris le bail commercial, mais j'ai pas du tout repris le stock. Et évidemment, l'identité est tout autre.
Ouais, bien sûr. Mm. Et oui, c'est vrai que la librairie est très belle. Et l'espace est vraiment super. Et effectivement, c'est grand. En tout cas, suffisamment pour se projeter sur l'accueil de lieux d'événements. Et j'avais envie effectivement que tu nous en parles un petit peu, parce que en plus de tout ce qu'on trouve au sein de la librairie en termes de livres, d'ouvrages, tu as quand même une programmation assez riche, assez éclectique aussi, en termes de format et de sujets. Bon, évidemment, des accueils d'autrices, des ateliers. Moi, j'ai assisté à une conférence gesticulée. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du choix que tu fais, toi et ton équipe, au niveau de la programmation, et pourquoi justement avoir choisi de proposer tous ces événements en plus de la librairie et des ouvrages qu'on y trouve?
Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, pour tout te dire, quand j'étais en bilan de compétences avec ma coach, au début, en fait, j'ai eu l'idée d'ouvrir un lieu de vie comme ça, où je pouvais faire plein de trucs, plein d'événements autour des questions de justice sociale, féminisme, écologie. Quand je ne savais pas du tout sous quelle façon et quel statut, est-ce que il fallait que ça soit rentable. Bah, j'ai abandonné cette idée-là parce que je n'avais pas un projet concret. À la base, en fait, je pense que il y avait déjà une envie de fédérer les gens, en fait, autour de ces sujets-là. Et après, la première question, c'était...
C'est quoi un peu l'idée que vous avez derrière de proposer plein de formats différents, plein de thématiques?
Alors, il y a nos idées, et puis il y a des idées qui viennent vers nous, pardon. Donc, les rencontres avec des autrices, ça, c'est tout de suite, je me suis dit, bon, il faut absolument faire ça. Parce que moi, en fait, quand je lisais tous ces essais, je rêvais de les rencontrer, en fait, ces autrices qui ont un peu forgé ma conscience féministe. Donc bon, ça, c'était assez évident, cette partie-là. Et après, en fait, sur tout ce qui est ateliers et autres conférences, il y a les idées que j'ai eues et il y a des gens qui sont venus vers moi pour proposer les projets. Donc les idées que j'ai eues, par exemple, moi j'ai voulu en fait mettre en place tout de suite aussi les cercles de parole, parce que moi j'y crois beaucoup au pouvoir du cercle, tout court. Je trouve qu'avec cette formule magique, on peut vraiment changer les choses, que ça soit au niveau d'un groupe ou au niveau planétaire même, on va dire. J'ai des cercles mixtes, j'ai des cercles aussi non mixtes mais uniquement pour les hommes, cis et trans. Donc voilà, il y a vraiment différents types de cercles. Par exemple, le cercle pour les hommes. Parce qu'en fait, si j'ai ouvert cette librairie, évidemment, ma clientèle, elle est très, très féminine. Même si je n'ai pas ce mot-là, les personnes femmes ou toute la communauté LGBT, toutes les minorités de genre. J'aurais gagné quand j'aurais autant d'hommes qui viennent aussi ici. Les hommes, déjà, de manière générale, lisent moins. Encore moins les autrices. Donc ça, c'est vraiment les statistiques qui ont été faites. Et quand j'ai travaillé sur le projet, j'ai eu accès à ces études. Sur ces questions-là, sur les questions du jeu, théorie de genre, au féminisme, ils s'intéressent moins. Alors ça, justement, donc ça progresse. Donc j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent. Parenthèse fermée, tout ça pour dire que je voulais aussi qu'il y ait un espace pour les hommes où ils peuvent s'exprimer. Donc voilà, c'est un peu sur comme ça que la programmation se fait.
Ouais, c'est top. C'est très ouvert en fait et très vivant du coup.
Oui.
Ça, c'est... Est-ce que pour toi ce lieu, il a vocation, alors soit par volonté ou soit en conséquence de tout ce que tu fais, mais à être finalement politique? Et est-ce que ton métier de libraire féministe, est-ce que pour toi c'est politique? Comment tu le perçois ça?
Oui, bien sûr, forcément, oui, c'est politique, évidemment. On est engagé sur plein de questions politiques.
Oui, il y a vraiment un enjeu de proposer d'autres choses pour une société différente et a priori plutôt féministe.
Bien sûr, si je peux changer la société grâce à ces livres, enfin quand je dis je, c'est pas moi qui écris, mais je fais des choix de mettre tel ou tel livre en avant et de conseiller et de partager avec les autres. Donc oui, c'est des choix politiques. Après, même dans notre quotidien, on travaille aussi avec cet engagement-là, par exemple pour mettre en avant les maisons d'édition. Chez nous, vous allez trouver plus des petites maisons d'édition engagées, comme Blast notamment, une toute petite maison d'édition toulousaine, tenue par deux personnes qui font ça sur leur temps de libre, Sol et Karima. Voilà, donc nous on les adore et on les soutient à fond. Donc oui, il y a systématiquement les livres de Blast sur nos tables. Et puis je peux citer comme ça plein d'autres petites maisons d'édition qu'on soutient. Donc en soi, c'est politique. Ça veut dire ne pas donner, donner de la visibilité plutôt à ces éditions-là que au plus gros. Et notamment, donc je pense en fait, petite parenthèse aussi, en France, il y a quand même dans l'édition, il y a deux grands groupes, Hachette et Editis, qui sont donc aujourd'hui Hachette est tenue par Bolloré. Donc je ne sais pas si j'imagine que tout le monde connaît Bolloré, donc quelqu'un qui soutient l'extrême droite et donc justement qui est en train de racheter Editis, et c'est la plus grosse production quoi en France. Donc on peut pas y échapper, c'est-à-dire que je dis pas qu'on vend pas ces livres-là d'Hachette et Interforum, parce que c'est impossible de ne pas le faire. C'est quand même la plus grosse production en France.
Moi, ce que j'entends en tout cas, c'est que le but aussi, c'est de donner de la place à tous et toutes, et du coup, pas uniquement aux livres à succès, aux grosses maisons d'édition, mais aussi mettre en avant des autrices, par exemple, qui sont peu connues ou des petites maisons d'édition et qui méritent en fait d'être vues, d'être lues, d'être connues. Et ça, c'est top en fait de pouvoir permettre cette diversité là, parce que sinon, quand bien même on lit des choses sur le féminisme par exemple, on peut aussi faire de l'entre-soi, tourner en rond sur des mêmes thématiques. Et comme tu disais, le féminisme il est pluriel, et c'est quand même intéressant de pouvoir aussi explorer d'autres autrices qui sont pas forcément éditées par certaines maisons.
Oui, exactement. Moi je pense que le meilleur complément que je puisse recevoir, c'est il y a que chez vous que je trouvais ce livre là j'ai cherché longtemps, ça fait longtemps que je cherche, et j'ai fait plein de librairies à Lyon, et c'est que chez vous que je trouve. Donc bon, je me dis, ça veut dire que j'ai la raison d'exister, voilà, les pupitres. Un autre complément que j'aime beaucoup, c'est j'ai pas besoin d'aller courir plein de librairies pour trouver ce que je veux, tout est réuni. Tout est là.
Je suis bien d'accord. Et en parlant de tout est là et tout est réuni, nous évidemment avec le podcast, on s'intéresse particulièrement aux écoféminismes, dont j'aime bien parler au pluriel également. Il y a certains bouquins écoféministes qui viennent évidemment d'ici, parce que voilà, c'est facile en fait de trouver ce qu'on cherche. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment précieux d'avoir un lieu comme ça sur Lyon.
Oui, on a tout un, d'ailleurs un sous-rayon justement.
Exactement, sur l'écoféminisme. Et quel est toi ton rapport avec l'écoféminisme, et puis aussi du coup quelle place ça prend dans la librairie au-delà du sous-rayon? parce que bon, l'écoféminisme en France revient un petit peu à la mode entre guillemets, c'est un peu tendance, mais à mon sens d'une manière quand même assez intellectuelle, politique et bourgeoise, qui est pas forcément ce qu'est l'écoféminisme à la base.
Oui.
Toi, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, à ce mouvement de pensée et de façon de vivre, et quelle place ça prend dans la librairie, l'écoféminisme?
Ouais. La première fois en fait que j'ai lu un livre sur l'écoféminisme, c'était quand j'ai déjà ouvert la librairie, donc on va dire il y a un an et demi. Et même si je savais, je connaissais le terme et je savais ce que ça voulait dire, parce que voilà, ça revient dans tous les écrits, enfin la plupart des écrits, mais j'ai jamais lu encore de livre. Et donc le premier, c'était Resisters, donc le roman graphique de Jeanne Burger-Cottal et Aurore Chapon. Et c'était un peu une épiphanie, quoi. Enfin, moi, en plus, il est vraiment très bien fait, il y a beaucoup de. Il est assez dense, il y a beaucoup de théories, mais c'est vachement bien expliqué.
C'était ta porte d'entrée,
ma porte
en fait,
d'entrée, voilà, dans l'écoféminisme, donc ça m'a permis de comprendre. Et ça a fait beaucoup de sens, tout de suite, toutes les explications. Parce qu'en fait, juste pour revenir un peu en arrière, moi, ma conscience écologiste, enfin écologiste. C'est ma fille en fait qui me perturbe. Elle me dit toujours, maman, t'es écologiste. T'es on dit écologique, pas écologiste. Ça y est, le virus est transmis. Donc ouais, ma conscience écologique, elle s'est opérée en fait beaucoup plus tôt. Je suis devenue végétarienne, tout ça. À un moment donné, je nous lisais aussi beaucoup. Bah, avant 2018, je lisais beaucoup de livres sur l'antispécisme, tout ça. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu Resisters, bah, tout ça s'est réuni en fait dans une voilà, comment dire, tout a fait sens en fait d'un coup, donc ça m'a beaucoup plu. Je pense que quand je lis un livre sur l'écoféminisme, il y a un truc dans le corps qui se passe en fait. J'ai l'impression que ça me touche, peu importe lequel, hein. C'est toujours des livres qui m'impactent beaucoup, et qui me, malgré ce qu'on peut penser, qui me donne toujours de l'espoir et vraiment une vision d'un monde meilleur. Donc ouais, je me sens très proche vraiment de ce courant-là. Alors au-delà de ce rayon, dans le rayon féminisme, on fait beaucoup d'événements autour de ce sujet-là. Donc on a fait, je sais pas, peut-être 3-4 rencontres avec les autoristes autour de ce sujet-là. Je pense notamment à Resisters, donc Jeanne Burger-Cottal et Aurore Chapon. On a invité Élise Thibault pour le sexocide des sorcières de Françoise de Beaune. On a invité Myriam Bafou pour Paillettes sur le compost. Et puis même récemment, il y a eu Charlotte Soulary aussi qui est venue pour l'écoféminisme peut-elle... peut-il sauver la planète ? Non, le féminisme peut-il sauver la planète ? Voilà, donc on fait quand même... c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos rencontres. Et puis, on a fait aussi des conférences. C'est à laquelle tu as assisté. Gesticulé sur la question de l'écoféminisme. Et là, en juin, il y a une autre... ça s'appelle Lecture-spectacle, qui va avoir lieu. Donc, c'est le 15 juin. Okay. Et là, pareil, c'est le thème, c'est l'écoféminisme. Et en fait, à un moment, parfois, je me dis, t'en as déjà fait plein, est-ce que c'est encore intéressant de continuer? Mais en fait, il y a toujours du monde. Donc, je pense que c'est un courant qui intéresse. Et j'ai remarqué, c'est là où il y a le plus d'hommes qui viennent.
Ah oui.
Dès qu'il y a un événement sur l'écoféminisme, comme quoi, en fait, quand c'est associé un peu aux questions... écologique, pas écologiste.
Voilà.
ça fait plus. Okay. Ça leur parle plus, quoi.
Là, c'est intéressant d'avoir ce retour.
Ouais, j'ai remarqué ça, ouais, vraiment.
Oui, c'est vrai que.
C'est un sujet qui réunit, je trouve.
Exactement. Vraiment. Le fait de, de réunir des dimensions de nos vies, on se rend compte que tout est lié. Et c'est vrai que l'écoféminisme. Est une bonne façon de lire le monde aussi. Et moi, je te rejoins sur. C'est pareil quand je lis des ouvrages écoféministes, ou que j'en entends parler, et ça me parle beaucoup plus, parce que j'ai l'impression que ça vient toucher plus aussi mes émotions, ma sensibilité, mon corps, le rapport à la vie, mais du coup de manière très expérimentale presque, et ça, on sort un peu du trop rationnel, trop intellectuel,
Un peu,
qui peut être des fois le cas quand on théorise,
ce qui
ça compte aussi, mais voilà, je trouve que l'écoféminisme nous ramène aussi à notre aspect vivant.
Oui, exactement.
Premier.
Ça me fait penser à Palais de son compost, justement, Myriam Bafou. Son livre, c'est, je ne sais plus la légende, mais c'est l'écoféminisme au quotidien. Et en fait, je ne sais pas si tu l'as lu. Tu vois, dans tous ses chapitres, c'est, elle commence par vraiment aller puiser dans son quotidien. Enfin, elle raconte une anecdote ou une scène dans sa vie, donc de son quotidien. Et après, elle tisse comme ça le fil vers sa pensée philosophique autour de l'écoféminisme. Mais c'est pour montrer aussi que, en fait, dans la vie dans notre vie de tous les jours, il y a des gestes, des actes, des choses qu'on vit qui ont un rapport avec tout ça. Donc, c'est très pratico-pratique. Enfin, c'est pas le terme que j'emploie, métaphysique, je sais pas, non.
En tout cas, ça rend les choses concrètes, réelles, vraies, palpables presque. Je trouve que ça donne de la texture. Avec Laetitia, on a lu l'ouvrage et on a fait il n'y a pas très longtemps un petit épisode coup de cœur sur, sur l'ouvrage. Et il nous a beaucoup parlé au même titre que Resisters. Et justement, peut-être pour avant de conclure, est-ce que tu as d'autres ressources à nous recommander donc pas Resisters, c'est pas Paillettes sur le compost, mais peut-être d'autres ressources en lien avec l'écoféminisme et le rapport au vivant.
Alors oui, je peux recommander de lire en fait une revue qui s'appelle Un texte à soi. C'est une revue qui a été créée par deux libraires à Paris, Marie et Agathe. L'idée en fait, c'est, donc elle est toute jeune cette revue, ça fait qu'un an qu'elle existe, et l'idée en fait, c'est de donner une carte blanche à une penseuse contemporaine féministe en France sur son sujet de prédilection. Donc elles ont commencé avec Camille Froidométrie sur le corps, et il y a Élise Thébault qui a écrit aussi sur les écoféminismes au pluriel. Donc c'est une revue qui coûte pas cher, à 6 €. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a une trentaine de pages, mais en fait justement l'idée, c'est de rendre accessible cette pensée là par exemple, ça vous évite de lire tous les livres d'Élise Thébault ou de Camille Froidométrie, qui sont parfois, ça peut être intimidant de lire un essai où on n'a pas le temps, où on n'a pas le budget aussi, tout simplement. C'est accéder à cette pensée-là de manière plus simple et plus économique. Et donc, Élise Thébault, elle a écrit dans le dernier numéro. C'est Élise Thébault. Donc, si jamais dans votre audience, si jamais vous avez votre audience, vous avez des gens qui n'ont encore jamais lu, rien lu sur l'écoféminisme, vous pouvez commencer par un texte à soi, donc le numéro avec Élise Thébault. Et en fait, elle explique ce que c'est, d'où ça vient, que justement, que à la base, c'est, ça vient du peuple de l'hémisphère du sud, de plutôt pauvre. Elle déconstruit ça, c'est cette idée-là. Elle parle aussi beaucoup du fait qu'en fait, l'écoféminisme a tendance à être critiqué comme un mouvement essentialiste aussi en France, en tout cas je sais pas comment c'est perçu ailleurs, mais en France c'est le cas. Donc elle explique aussi en quoi c'est faux de penser ça. Voilà, donc c'est... Et puis Élise Thébault, elle écrit avec beaucoup d'humour qui lui est très propre et singulier, donc c'est un plaisir de lire. Et d'ailleurs aussi, en parlant d'Élise Thébault, mais ça va être ma deuxième recommandation, elle a aussi une newsletter qui s'appelle Nouvelle Lune. En fait, c'est une collection, c'est aussi le nom d'une collection qu'elle a lancée au début de l'année, aux éditions Au Diable Vauvert. Ce sont des livres qui vont être édités, mais aussi cette newsletter qu'elle sort en fait à chaque Nouvelle Lune. Elle écrit elle-même, mais elle donne aussi beaucoup la parole aux autres penseuses. et notamment celle où il y avait Taous Merakchi qui a écrit beaucoup sur la colère, ça c'était super intéressant. Il y avait Juliette Drouard qui a écrit aussi récemment son texte aussi très intime d'ailleurs. Et puis il y en aura d'autres. Voilà, donc je recommande aussi de vous abonner. Et sur le site de Nouvelle Lune, vous pouvez aussi avoir accès à toutes les autres newsletters précédentes. Voilà.
Et ben, top, super. Merci beaucoup pour ces recommandations-là qui font envie d'être découvertes. Et merci pour du coup ton accueil et ton partage. Du coup. Et j'invite toutes celles et ceux qui sont sur Lyon du coup, à venir découvrir la librairie. Merci beaucoup, Rosa.
Merci beaucoup à toi, Hélène. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.